Bonjour à tous, on commence aujourd'hui Maseret Betsa avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Une Maseret qui va nous être d'utilité chaque Yom Tov, puisque c'est une Maseret qui parle de tous les Yom Tov, qui est liée à des halakhot générales de Yom Tov. Après, chaque Yom Tov, il a sa Maseret, comme Souka, comme Psachim, comme Yuma, etc. Donc, cette Maseret, elle va nous accompagner jusqu'à notre Siyum HaShas, Bezrat Hashem. Betsa, Shenolda, Beyom Tov. Un œuf qui est né pendant Yom Tov. On a le droit de le consommer. On n'a pas le droit de le consommer. On va attendre avec patience pour que la Gemara nous explique quelle est leur discussion. Deuxième arloquette. Bet Shammai Omrim, c'est or bekazait, vechametz bekakotevet, ou bet Hillel Omrim, zevaze bekazait. C'est une arloquette qu'on a vue dans Maseret Yuma. À être propriétaire de ces ors. Ces ors, c'est une pâte qui est déjà suffisamment chametz, qui a la capacité de rendre autre chose chametz, ce qu'on appelle nous du levain. Donc si on en a kazaït, c'est déjà, on transgresse l'interdit de bali raï ou bali matzé. Chametz, c'est une pâte qui est simplement montée, mais qui n'a pas la capacité de faire monter une autre pâte, bekakotevet, la taille d'une date. Mathilel omri, zevaze bekazaït. Mais nous disent que ce soit du seor ou que ce soit du chametz, c'est à partir d'un kazaït. Troisième machloket, hashochet chaya va'ov biyom tov. Quand on fait une shrita pendant yom tov, ce qui est permis, on a le droit de faire tout ce qui est préparatif de repas. Betcham yomri mirpor badekar veyechase. Tout ce qui est chaya va'ov, toutes ces sortes d'animaux, une chaya par exemple un cerf, à la différence d'une vache, off toute volaille, on a l'obligation de kisui adam, de recouvrir le sang. Betchamay nous disent yerpor badekar veyechase. Recouvrir le sang, ça implique toutes sortes de melachot qui pourraient être interdites, comme creuser, comme écraser la terre. Betchamay nous dit c'est permis de le faire yerpor badekar, tu as le droit de creuser avec une pelle, veyechase, de recouvrir le sang. Betil amrim lo ishrot, tu as le droit de faire la shrita. Elemken, si seulement s'il y avait afar bukhal beodium, s'il avait déjà préparé la terre qui allait recouvrir le sang. Mais Modim, ils sont d'accord que Im Shachat. Il a fait la shrita et puis après il dit ah mais il faut faire kisui adam. Cher Por Badekar Vechase, il a le droit de creuser avec la pelle à condition qu'il ait une pelle qui est déjà plantée dans le sol, comme on verra dans la Gemara. Chez Efer Kira Mukhanuhu, on verra que ça n'a aucun rapport. Enfin, expliquer comme ça, c'est impossible de le comprendre. On verra dans la Gemara. Efer Kira, c'est de la cendre qui se trouve dans un four par exemple. Il est prêt à l'utilisation. Le lien entre les deux parties, comme je vous ai dit, on va le laisser à la Gemara. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que, de quoi on parle et pourquoi est-ce que ça serait interdit ou permis? Bema Yaskinan, on revient sur la première machloket, c'est-à-dire l'œuf qui est né pendant Shabbat. Il est ma betarnegolet omedet le'achila. Si on parle d'une poule qui est censée être consommée un jour ou l'autre, donc elle-même est définie comme nourriture. Maïta maïu de Bethilel, pourquoi est-ce que Bethilel interdirait cet œuf? Sachant que la poule elle-même est définie comme nourriture. Et que donc l'œuf est une partie de cette poule, donc il est lui aussi défini comme nourriture, il n'y a pas de raison de le définir comme moukté. Moukté, et c'est un terme qu'on va répéter tout au long de la Maseret, moukté c'est quelque chose qui n'est pas dans notre subconscient, on ne l'a pas décidé de l'utiliser. Donc c'est quelque chose qu'on a été makté mida atenu, c'est-à-dire qu'on a repoussé. Maintenant, quelque chose qui est destiné à être consommé, il est défini comme nourriture. Quelque chose qui n'est pas destiné à être consommé n'est pas défini comme nourriture. Si la mère était censée on était censé lui faire la shrita, c'est de la nourriture. Donc l'œuf, il n'y a aucune raison de l'interdire. Ou que la défratou, c'est comme si tu as coupé un morceau de pain. Donc ce morceau-là, c'est sûr qu'il est permis. Pareil pour l'œuf. Il fait partie d'une poule qui est nourriture. Lui aussi est nourriture. Et la betarnegolet omedet legadel betzim. Peut-être que ce n'est pas une poule qui est censée être consommée, mais au contraire, c'est une poule qui est censée faire des œufs. Et donc, on n'a jamais décidé de la manger. Donc, je comprends pourquoi est-ce que la mère n'est pas consommable, et donc je comprends pourquoi est-ce que l'œuf pourrait être mouktsé. Mais si c'est ainsi, maïta mayu de betchamay, pourquoi est-ce que betchamay permettrait mouktsé? Elle est définie comme mouktsé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'intention de la manger. Si on n'avait pas l'intention de la manger, elle n'est pas consommable. Ou maïkouché, demande la Gemara. Peut-être que non. Dilma betchamay, il est le mouktsé. Après, on a une machloka dans tout le chasse. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on dit que Rabbi Shimon l'est les mouktés. C'est-à-dire, c'est pas que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdit de mouktés, mais il y a moins d'interdits de mouktés. Peut-être que d'après Beth Shammai, on est dans le cadre, dans la même vision que Rabbi Shimon. Et donc, même si elle n'était pas dédiée à la consommation, elle n'est pas définie comme mouktés d'après Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Shimon, les cas de mouktés sont. Il y a beaucoup moins de cas de mouktés. La Gemara nous dit, notre question elle est basée sur Kasalka Datin, Afilomande Sharebe Mukte Benola Dasso, Maitamay de Bet Shamay. On a deux sortes de Mukte. On a un mukhtseh standard. J'ai quelque chose qui est devant moi, mais instinctivement, je n'ai pas l'intention d'utiliser. Donc, c'est un mukhtseh instinctif, c'est un mukhtseh qui n'est pas voulu, mais qui, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, ni j'ai décidé de le rendre mukhtseh, ni je n'ai pas décidé de l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, je peux comprendre qu'il y a une marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Mais nolad, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'avait même pas, qui n'était même pas là pour en discuter. Donc, il n'y a même pas de discussion. Est-ce qu'il a été prédestiné à quoi que ce soit? Il n'existait pas. Et donc, ce mukhtseh est plus simple à définir comme mukhtseh, plus simple à définir comme interdit. Et donc, nous dit la Gemara, même d'après Rabbi Shimon, qui pense qu'en général, mukhtseh n'existe pas. Mais on pensait, nous, que nolad, il était d'accord. Quelque chose qui n'existait pas. Tout le monde était d'accord que c'est mukhtseh. Et donc, notre question était basé sur ça. Si Béhémet, on parle d'un cas de Nolad, d'un cas où la mère était mouctée, puisqu'elle n'était pas dédiée à la consommation. Et donc l'œuf aussi n'est pas dédié à la consommation. Et en plus, il n'existait pas. Donc d'après tout le monde, ça devrait être mouctée. Mais Tamaï de Beth Shemaï, pour quelle raison Beth Shemaï aurait interdit à la consommation, aurait permis à la consommation cet œuf? Amar Nachman, Leolam et Tarnagolet, Omenet et Gadel Betim. Tu as raison, on parle d'un cas où la mère est mouctée, puisque n'est pas dédiée à la consommation, elle est censée mettre des œufs, elle est censée faire des œufs et c'est tout. Ou des itlé moukhtse et tlenolad, ou l'itlé moukhtse et tlenolad. Donc ta supposition, Razak, tu as des bonnes suppositions, mais tu ne peux pas supposer quelque chose et poser une question. Et donc celui qui pense qu'il existe l'interdit standard de moukhtse comme Rav Yehuda, il pense que ici c'est interdit. Ou des itlé moukhtse, celui qui pense qu'il n'a pas tous ces niveaux de moukhtse comme Rabbi Shimon, il n'a pas tout l'interdit de nolad non plus. Et donc, Bet Shammai et Rabbi Shimon, Bet Hillel et Rabbi Yehuda. Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, on n'a pas toutes sortes de moukhtse. Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda, on a toutes sortes de moukhtse. C'est pour ça que quand on se pose la question, quel est votre avis au sujet de nolad, chacun va suivre l'avis standard. Rabbi Yehuda, il dit, il y a moukhtse, on est mahmir, c'est ce moukhtse, ce moukhtse, ce moukhtse. Et bien, tu peux rajouter aussi nolad d'après Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Shimon, slash d'après Bet Shammai, on n'a pas toutes ces sortes de moukhtse, donc nolad non plus, on ne l'a pas. Comment est-ce que tu peux dire que Rav Nachman pense que Bet Hillel est égal à la vie de Rabbi Yehuda Vatnan? Bet Shammai Omrim, Magbin, Malashlochan, Atzamot ou Klipin. Toutes sortes de pots qui ne sont plus considérées, qui ne peuvent plus être utilisées comme de la nourriture. Donc c'est une sorte de moukhtseh, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Et c'est quelque chose qui est aussi dégoûtant. Donc est-ce qu'on a le droit de le déplacer de la table ou pas? Donc Bet Shammai Omrim, Magbin, on a le droit de déplacer Atzamot ou Klipin des os ou des pots qui ne sont plus consommables. Beth Hillel nous disent non, on n'a pas le droit de les prendre directement, mais Salek est à Tavla Kula. Tu vas prendre le plateau, et à travers le plateau, ce qu'on appelle-t-il tout le Minatsad, tu vas pouvoir déplacer ces pots-là. Ou Menahara, et après tu vas aller la secouer. Il va à Rav Nachman, le même Rav Nachman qui a expliqué l'autre Mishnah, c'est celui qui explique c'est le Braïta. Il dit non, ce langage, cet enseignement, il n'est pas dans l'ordre. À nous, en la nous, on a au contraire, et la Beth Shammai qui Rabbi Yehuda, Beth Hillel qui Rabbi Shimon. Non, on sait très bien que Beth Shammai pense comme Rabbi Yehuda, et donc on est machmir le maximum de moukhtseh. Beth Hillel qui Rabbi Shimon, on est mekel au maximum. Et donc, dans cette Mishnah, on doit enseigner que c'est Beth Hillel qui permet de prendre les pots, et Beth Shammai qui dit qu'il faut prendre le plateau. Donc on voit que, d'après Rav Nachman, Beth Shammai pense comme Rabbi Yehuda, et Beth Hillel comme Rabbi Shimon, contrairement à ce que Rav Nachman nous a expliqué ici. Contradiction. Amar lecha Rav Nachman. Gabe Shabbat, de Satam l'antana ki Rabbi Shimon. Puisqu'au sujet du Shabbat, on a une Mishnah Stam, c'est-à-dire que c'est tranché de cette manière. Mechatrin et Adloin ifne Behema. Une latte, la courge, on a le droit de la couper pendant Shabbat devant un animal. Là, il n'y a pas de problème de moukhtseh, mais il y a un problème de tircha, de fatigue pendant Shabbat. On a le droit de le faire pour l'animal, de couper des morceaux de courge devant l'animal. Un animal qui est mort pendant Shabbat, ben on va le mettre en morceaux et le distribuer aux chiens. On a le droit de le faire pendant Shabbat. Là, on a un autre problème. On a un problème de moukhtseh, puisque cet animal, à l'entrée du Shabbat, n'était pas considéré comme de la nourriture. Et maintenant, il devient considéré comme de la nourriture. Donc, à l'entrée de Shabbat, il était moukhtseh, donc il est défini comme moukhtseh. Donc, Gabé Shabbat, Satam Latana Kerabi Shimon. Puisqu'on voit qu'il n'est pas défini comme moukhtseh, forcément, ça va seulement d'après l'avis de Rabbi Shimon. Donc, Stam Mishnah, on a une Mishnah qui nous dit que moukhtseh pendant Shabbat, la définition des moukhtseh interdits pendant Shabbat, c'est comme Rabbi Shimon, et c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est permis. Mokimna le Beth Hillel ki Rabbi Shimon, c'est pour ça que quand on s'est posé une question au sujet des pots et des os pendant Shabbat, on a préféré dire que Beth Hillel pensait comme Rabbi Shimon, puisque la halakha est comme Beth Hillel, et d'un autre côté, la halakha est comme une Stam Mishnah. On a une Mishnah, on a une Rokal Beth Hillel Beth Shammai. On a une Mishnah, on a Stam Mishnah qui nous dit que on est posé qu'à la halakha, qu'il n'y a pas de toutes sortes de moukhtseh comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire que celui qui permet de prendre directement les pots, c'est Beit Hillel, puisque la halakha est comme lui, slash Rabbi Shimon, slash Stam Mishnah. Donc au sujet de Shabbat, j'ai une braïta qui m'a tranché comment définir le Moukhtse comme Rabbi Shimon. Aval, les gabé Yom Tov, mais au sujet de Yom Tov. Des Satamla Tanak et Rabbi Yuda, puisqu'on a une Stam Mishnah comme Rabbi Yuda, les Tanan. En mevakin etzin minakorot, velo minakorot shenishba biyom tov. Si jamais on a du bois qui est entreposé pour la construction, c'est pas pour allumer un feu. Ou alors on a un morceau de bois qui était dédié à être une construction, il s'est cassé pendant Yom Tov, et maintenant j'ai besoin d'allumer du feu. Est-ce que j'ai le droit de le dévier son yad, son but, et de dire bon maintenant je vais l'utiliser pour autre chose? Puisque c'est marqué qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est tout simplement parce que ça va dans l'optique de Rabbi Yehuda. À l'entrée de Yom Tov, il était défini pour une avoda X, maintenant il est Moukhtse, tu ne peux pas le transformer. Donc ça va dans le sens de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on est Mahmir dans Moukhtse. Donc c'est pour ça que Mokimla les Beit Hillel et Rabbi Yehuda, c'est pour ça que j'ai préféré expliquer notre Mishnah, où Beit Hillel nous dit qu'il y avait un problème de Moukhtse dans un œuf, comme Rabbi Yehuda, et c'est pour ça que je dis que chez nous aussi, il y a un problème de Moukhtse, à savoir l'œuf qui est né, il est nolade. Donc en vérité, ce qu'on a fait, c'est que on a Rav Nachman qui a expliqué notre Mishnah en Machloket Beit Shammai et Beit Hillel au sujet de nolade, est-ce que c'est Moukhtse ou pas. On a dit que Beit Hillel qui était Mahmir était comme Rav Yehuda. On a un problème de dire que Beit Hillel pense comme Rav Yehuda, puisque toi-même, Rav Nachman, tu m'as dit que Beit Hillel pensait comme Rabbi Shimon. On a dit, attention, fais bien la différence. Au sujet de Shabbat, on est Mekel, au sujet comme Rabbi Shimon, au sujet de Yom Tov, on est Mahmir comme Rabbi Yehuda. Donc on a le même Beit Hillel, les mêmes Mouktim, mais pour Shabbat, ils ne vont pas être Mouktim, pour Yom Tov, ils vont être Mouktim. Et c'est paradoxal. L'Agma a posé la question, Mirde, Man Satvele Matetin, qui est-ce qui a enseigné les Mishnayot et qui est-ce qui a décidé de trancher dans la Mishnah de Shabbat comme Rabbi Shimon? Rabbi, Maishna Shabbat, Satamla Rabbi Shimon, Maishna Yom Tov, Satana Rabbi Yehuda. Comment se fait-il qu'au sujet du Yom Tov, il a été Mahmir comme Rabbi Yehuda, et au sujet de Shabbat, il a été Mekel comme Rabbi Shimon? Amre, l'Agma répond, Shabbat de Chamire, Velat et les Ezul, et bah Satana Rabbi Shimon de Mekel. Puisque Shabbat, c'est quelque chose qui est gravement interdit aux yeux des gens, les gens ne vont pas être Mekel, ils ne vont pas être Mezalzel dans le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'alléger l'interdit de Moukhtse qui est entièrement Midrabanan. Mais Yom Tov Tekil, aux yeux des gens, les Yom Tov, c'est plus léger. On peut cuisiner, donc ça donne l'impression que bon, c'est plus facile. On peut être Mekel. Les gens risquent de ne pas respecter le Yom Tov, c'est pour ça que Satamla Karabuda de la Mahmir, c'est pour ça qu'on a préféré être Mahmir dans Moukhtse que dans Yom Tov. Donc on pourrait avoir des halakhot plus graves dans Yom Tov que dans Shabbat. Donc tu m'as expliqué que la Mahloket dans notre Mishta Beit Shammai Beit Hillel, au sujet d'un œuf qui est né pendant Yom Tov, est-ce qu'il est permis à la consommation ou pas? Parce qu'il y a une Mahloket au sujet de Nolad, une sorte de Moukhtse. Quelque chose qui est né pendant Yom Tov. Yahri, Adem Flegé, Bebetsa, les Flegé, Betarnegolet. Si c'est ça le problème, pourquoi est-ce que tu as besoin de me dire qu'il y a une Tarnegolet, qu'il y a un enfant, et on se pose la question, enfin un enfant, un œuf, et on se pose la question, parle-moi de la Tarnegolet. Elle n'était pas dédiée à la consommation, et j'ai décidé de le faire. C'est aussi Moukhtse. Et c'est aussi quelque chose que je veux utiliser maintenant pendant Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Marloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, pourquoi tu vas chercher l'œuf? Le Diacha, Koran de Beit Shammai, de Ben Alachari. Pour te dire, tu vois, Beit Shammai, même l'œuf qui est encore plus Moukhtse, il n'existait même pas, il n'avait même pas l'intention de consommer cet œuf. C'est pas qu'il était là, et bon, on aurait pu se dire, bon, bah, il est là, peut-être s'il en a besoin, il va l'utiliser. Il n'existait pas, donc il est nolad. S'il est nolad, c'est un Moukhtse qui est plus khamour, comme on a vu au départ, comme l'Agmara nous disait, on pensait que d'après tout le monde, nolad c'était interdit, pour nous dire que même dans le cas de l'œuf qui est nolad, Beit Shammai permet. On nous dit l'Agmara, ça c'est une bonne réponse, mais quand même. Les flégos et le diacha koran et il a des moukhtse. Pourquoi tu vas pas dans le sens, dans l'autre sens? Dis-moi comme, explique-moi que Beit Hillel nous interdise même le moukhtse de la mer. C'est un moukhtse léger. Tout le monde est d'accord. D'après ton optique, c'est un moukhtse qui est plus léger. Enseigne-nous que Beit Hillel sont mahmir même dans un moukhtse qui est plus léger. Vérité ma koach l'éteradif. Tu vas me dire, ah, mais on a une règle. Celui qui permet, il prend plus de responsabilités. Donc quand il permet, ça doit être une affirmation forte. Celui qui a interdit, il peut interdire parce qu'il n'a pas trouvé comment permettre. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément interdit. Et donc, quand il y a un chidouche de éther, c'est un chidouche qui est plus intéressant à enseigner. Tu vois, même ce cas-là, ils sont matières. C'est pour ça que j'ai préféré t'enseigner que Beit Shammai sont Mekel, même dans l'œuf, parce que c'est un plus grand chidouche. Ok, tu as raison, c'est vrai, c'est un plus grand chidouche. Et alors, Veniflog Betarvayou. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas enseigné la Mahloket dans les deux sens? C'est comme ça, tu as les chidouchim des deux extrêmes. Tarnegolet omedet legadel betim ou betzata. Au sujet de la poule et au sujet de l'œuf. Bet shamay rum teachel ou betil rum lo teachel. Au sujet de la poule, bet shamay nous sont mekel autant sur la mère et encore plus sur le petit, sur l'œuf. Et on voit que c'est une plus grande coula. Et bet ilel sont mahmir non seulement sur l'œuf mais même sur la mère. Donc on voit qu'ils sont plus mahmir. Donc tu devrais me donner les deux extrémités. Et là, Amar Rabba. Le fameux Rabba. Le olam be tarnegolet omedet leachila. On parle behemet d'une tarnegolette qui est dédiée à la consommation. Ou bien yomtov shechaliot achar shabbat asinan, un yomtov qui tombe dimanche. Ou mishum achana. Et cet œuf est interdit parce qu'il a été préparé pendant shabbat. Et alors, vekasava rabba kol betzad imelda aitna et denetol gamrala. Si il est né aujourd'hui, c'est que depuis hier il est prêt. La Gemara nous explique alors c'est quoi l'interdit. L'œuf qui est né pendant yomtov était prêt depuis hier. Enfin, il s'est fini pendant la journée d'hier. Hier c'était shabbat, ce qui fait que shabbat après pareil, Yom Tov, ça c'est interdit. Rabba l'étamé, d'amar Rabba Maïd irtiv, v'ayab ayom hachishu v'yachinu et asher yaviu. Il y a marqué dans le passage que le sixième jour, ils doivent préparer. La Gemara nous dit, on n'en a pas besoin de ce passage, on sait très bien, il y a marqué déjà, et asher tofu, et fou, et asher bachelou, bachelou. C'est-à-dire que c'est déjà marqué qu'il faut tout préparer avant Shabbat. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner. Chol mechin le Shabbat, v'chol mechin yom tov. Ven yom tov mechin le Shabbat, ven Shabbat mechin al yom tov. On doit préparer le kavod du Shabbat, le kavod du Yom Tov, c'est qu'un jour de semaine et fasse partie des préparatifs du Shabbat ou du Yom Tov. Mais qu'on utilise le Yom Tov pour préparer le Shabbat ou le Shabbat pour préparer Yom Tov, ça c'est interdit. C'est pour ça que si un œuf est né pendant Yom Tov, sous-entendu Motzei et Shabbat, donc un dimanche, là l'œuf est interdit. Malé Abaye et la Mata Yom Tov Balmati Shteré. Ah, si c'est comme ça. Si l'œuf est né un mardi, un mercredi, un jeudi, ça devrait être permis. Et tu as raison. Gzera Mishum Tov Achar Shabbat. J'ai interdit tous les Yom Tov de la semaine à cause du Yom Tov qui tombe un dimanche. Shabbat Al Metishtere. Shabbat qui n'est pas. Quand il n'y a pas de Yom Tov avant. Un Shabbat normal. Il n'y a pas de Yom Tov avant, ça devrait être permis. Pareil. Gzera Mishum Shabbat Achar Yom Tov. C'est vrai, tu as raison. Mais on interdit de peur qu'on risque de permettre un Shabbat qui est Motzei Yom Tov. Donc vendredi c'était la fête, Shabbat est rentré. Donc l'œuf est né Shabbat, donc il a été préparé pendant Yom Tov. C'est interdit. Mishum Achana de Rabba, comme certains chez nous disent, Mide Oraita. Donc j'ai interdit tous les œufs qui vont l'être n'importe quel Shabbat. Migazanan. Quoi, tu me dis qu'on interdit tous les Shabbat et tous les Yom Tov à cause de ça? Si c'est ainsi, Vatania Shuret et Tanagolet Matzaba, Betsim Gumurim. Moutarin Lochlan Yom Tov, quelqu'un qui a fait la Shrita d'une poule. Et il ouvre l'animal, oh, il y a des œufs. On a le droit de les consommer. Vimita, l'exor Mishumalar, Dimital Dan Beyoméon. Si c'est comme ça que tu interdis tous les Shabbat et tous les Yom Tov, tu devrais aussi interdire tous les œufs. Et donc ces œufs-là qui ont été trouvés dans les entrailles de la poule, ça devrait être interdit, de peur qu'on permette des œufs qui naissent pendant Yom Tov et qui naissent pendant Shabbat. Amarle, Betsim, Gomorat, Bimeyman, Milta de l'Oshrichaï. De trouver des œufs quand on a fait la Shrita de la mer, c'est pas quelque chose de fréquent. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, en général, Chachamim n'interdisent pas, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est permis. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshem. Rav Yosef lui donne une autre explication. Donc on avait l'explication de Rav Nachman, on est resté en question. On a l'explication de Rabba, Achana des Rabba, on n'a pas le droit d'avoir un Yom Tov qui prépare pour Shabbat ou un Shabbat qui prépare pour Yom Tov. Rav Yosef nous dit Mishum Perot Anoshem. On n'a pas le droit d'arracher des fruits de l'arbre pendant Shabbat. On n'a pas le droit non plus, mais des rabananes, de consommer des arbres qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat, de peur que tu goûtes, pas mal. Tu vas prendre un autre fruit et tu vas transgresser un interdit. Et donc l'œuf aussi, c'est quelque chose qui ressemble, c'est quelque chose qui est tombé de l'arbre. Bon, l'arbre il est un peu différent, il a la forme d'une poule, mais ça ressemble. Si je te permets de consommer un œuf, la Gemara comprend, tu risques d'aller prendre un fruit qui est tombé de l'arbre et tu risques de transgresser un interdit. Et pourquoi est-ce qu'on a interdit de prendre des fruits qui sont tombés exera? Shemaya les vitloches, de peur qu'il arrache des fruits. Igoufa exera, venan est comme une exor exera l'exera. La Gemara dans sa question, elle a compris comme j'ai dit. C'est-à-dire, si je te permets l'œuf, tu vas dire, attends, l'œuf il est tombé de la poule, alors j'ai le droit d'aller prendre le fruit qui est tombé de l'arbre. Je vais aller prendre le fruit qui est tombé de l'arbre. Après avoir pris le fruit qui est tombé de l'arbre, alors j'ai le droit de prendre un fruit de l'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle exera l'exera. Tu interdis quelque chose pour protéger un autre décret. De ne pas consommer l'arbre qui est tombé du fruit, c'est un interdit midera banane. Donc tu fais une xéra, tu interdis l'œuf qui ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre, de peur que tu viennes prendre des fruits de l'arbre directement. Xéra la xéra. La Gemara répond kula chada xéraï. C'est pas qu'on a interdit de prendre l'œuf parce qu'il ressemble au fruit qui est tombé de l'arbre. Quand on a interdit tout ce qui sort de tout A qui sort de B, on a interdit aussi l'œuf. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la tarnégolette, il n'y a pas ce cas-là. Tu ne vas pas aller arracher l'œuf de l'intérieur Et il n'y a peut-être même pas d'interdit. Mais c'est pas qu'il y a un risque. Mais on a dit tout perotanochrim, tout ce qui tombe, tout ce qui sort d'un autre endroit, c'est interdit, de peur qu'il y ait un cas où la personne va aller directement arracher la source. Un mitzvah kamar gzera meshumashkin chez Avou, on n'a pas le droit de presser des fruits pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Si jamais des fruits ont coulé, ils étaient bien, bien, bien pleins, il y a du jus de fruit, on n'a pas le droit de le faire, de peur que, on n'a pas le droit de le boire, de peur que tu dises, ah, attends, il était bon, viens, on presse le fruit, c'est interdit. Et donc ça aussi, ça ressemble, c'est un liquide, enfin, c'est une nourriture qui est sortie d'une autre nourriture. Amarle abaye mashkin chez Avou, tamemai. Pourquoi est-ce qu'on interdit mashkin chez Avou? Gzera chez Maïsrot, de peur qu'ils viennent à presser les fruits. Igoufa gzera, vana nikon gzera. La même question. Toi, tu me dis c'est interdit de l'œuf, de peur qu'il aille prendre les machines chez Avou, des liquides qui sont sortis, de peur qu'en fin de compte, il aille presser. Donc, tu protèges ton décret d'interdire un liquide qui a coulé en interdisant l'œuf. Mais ça, c'est une xéra, les liquides qui ont coulé. Protégé par une xéra, interdire l'œuf, c'est xéra l'exéra. Répond la Gemara, kula khada xéra. C'est pas qu'on interdit, après avoir interdit les machines chez Avou, je dis attends, il faut protéger ce décret, on va interdire l'œuf aussi. On a interdit tout ce qui coule, tout ce qui sort d'une autre nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a interdit l'œuf aussi. Donc on a en final 4 explications dans la Machloket Bet Shammai Bet Hillel. On va répéter tout de suite dans la Chazara. Dans la Mishnah, on a vu Machloket Bet Shammai Bet Hillel au sujet d'un œuf qui n'est pas dans Yom Tov, Machloket Bet Shammai Bet Hillel au sujet de. C'est or, combien de quantité il faut, est-ce que Beka Kotevet ou est-ce que Beka Betse, Marloket, est-ce qu'on a le droit de creuser et de recouvrir le sang pendant Yom Tov? La Mishnah Gemara, pour l'instant, elle essaie d'expliquer la première Marloket, quel serait l'interdit d'un œuf qui est né pendant Yom Tov. Première explication de Rav Nachman, la Marloket, elle est standard, elle est basique, c'est une Marloket de Mouktse. Est-ce qu'on définit ça comme Nolad et c'est Assour d'après Rabbi Yehuda? Ou alors c'est moutard d'après Rabbi Shimon et la Machloket, Rabbi Bet Hillel, Bet Shammai est parallèle à la Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans Yom Tov. Dans Shabbat aussi, on aurait la même chose, mais cette fois Bet Hillel serait Mahmir comme Rabbi Yehuda. Et on est plus Mahmir dans Shabbat que dans Yom Tov, puisque les gens ont plus tendance à moins respecter le Yom Tov, donc on a été Mahmir, première explication. Deuxième explication, l'explication de Rabat, Achana des Rabat. Yom Tov et Shabbat ne peuvent pas préparer pour Yom Tov et pour Shabbat, donc ni pour le jour même, ni pour le lendemain qui est ou Yom Tov ou Shabbat, donc c'est interdit. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit tout Shabbat et tout Yom Tov à tous les Shabbat et Yom Tov qui sortiraient après un Shabbat ou après un Yom Tov. Troisième et quatrième explication, on a un décret ou alors perot anoshrim, des fruits qui sont tombés de l'arbre, ou alors mashkim chez Avou, un liquide qui est sorti du fruit, on les a interdits de peur que tu arrives à transgresser un interdit. Un œuf qui est né d'une tarnégolette ressemble un petit peu à Mashkin chez Avou et à Perot chez Nashrou. Il a à peu près les mêmes caractéristiques. Il sort, lui, d'une autre nourriture. Comme on le verra demain, on va un peu plus développer. Et donc c'est pour ça que c'est aussi interdit. Tous les Shabbats de l'année, le Daf est clair. N'oubliez pas de faire Chazara. Et à demain, Be'ezrat Hashem, Be'atzlacha, pour Maserhet Betza.